bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Né à Point-d'Imier, commune située au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, Cédric Bérode réalise très jeune son premier achat immobilier alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Dans cet épisode, il nous raconte ce qui l'a amené à faire cet investissement et comment il a réalisé une plus-value très intéressante alors qu'il n'avait aucune notion en matière d'immobilier. Découvre également comment Cédric est devenu agent immobilier un peu par hasard, par un concours de circonstances qui va rapidement l'amener à investir dans son premier immeuble de rapport en Nouvelle-Calédonie. Crédit immobilier, gestion du risque, stratégie d'achat-revente et location à forte rentabilité, Cédric vous livre ses conseils à travers son expérience d'agent immobilier et son parcours très inspirant. Sans plus attendre, accueillons Cédric Bérode. Bonjour Cédric.
Bonjour.
C'est un honneur pour moi de t'accueillir pour ce premier épisode du podcast. Je suis vraiment content de te recevoir. Donc on a déjà un peu discuté. Tu as une expérience vraiment très très intéressante en termes de parcours personnel dans l'immobilier. Et tu es également gérant d'une agence, donc l'agence Immobilier Outre-mer, basée à Nouméa, et également vice-président de la Confédération de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie, c'est ça ?
Tout à fait, ouais.
Et également président de la Confédération des professionnels de l'immobilier.
Voilà, ouais. Il y a deux syndicats d'agents immobiliers en Calédonie, et ces deux-là se sont regroupés dans un. Donc je suis président d'un de syndicats, et quand on est regroupé dans un autre, on est président et vice-président de celui-ci aussi.
Donc j'imagine que tu connais très très bien le monde de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Ça fait peut-être plus de 10 ans que tu...
Ça fait plus de 10 ans que j'ai l'agence immobilière, que je suis gérant de l'agence immobilière. Mais c'est vrai que j'ai commencé mes premiers achats plus tôt, plus jeune, sans savoir que j'allais finir agent immobilier.
Et c'est vraiment ça qui est intéressant, puisque donc on a des auditeurs qui s'intéressent un peu à l'immobilier, on a des débutants, des gens qui sont un peu intermédiaires, ou des investisseurs déjà confirmés. Et l'intérêt, donc moi j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce qui t'a amené en fait toi, quand tu connaissais rien, quand tu étais jeune, parce que apparemment tu as investi ton premier
tout à fait, disons que moi je
très jeune. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené, comment ça s'est passé un peu, est-ce que tu peux me raconter cette histoire?
Je viens pas d'une famille qui a des biens immobiliers, qui est d'une famille riche ou de constructeurs ou de promoteurs, c'est vraiment moi qui me suis fait, on va dire, tout seul. Donc jeune, bon, mes parents me faisaient participer à des travaux de construction de maison, on a toujours un peu bricoler, couler des dalles, faire du carrelage, de la peinture, des choses comme ça. Et donc à 21 ans, j'ai acheté mon premier appartement. Dès que j'ai eu un contrat en CDI, j'ai recherché quelque chose à acheter pour me mettre un toit sous la tête et préparer mon capital et préparer ma retraite pour mes vieux jours. C'est toujours quelque chose dont j'ai eu peur, c'est de me retrouver à 70 ans sans rien. Pas en forme et sans toit sur la tête, quoi.
D'accord.
Donc c'est ça qui m'a amené vraiment à chercher quelque chose rapidement dès que j'ai pu avoir un CDI.
Voilà. Donc toi, t'as acheté vraiment pour te loger. Ouais. Tu concevais pas finalement de payer un loyer. Hein. C'était vraiment important pour toi.
Ouais. Tout à fait. Voilà la construction du capital. Donc mon premier achat, je l'ai fait pour me loger, mais je l'ai pas fait sur un coup de cœur. J'ai vraiment choisi un projet où je pouvais acheter quelque chose de pas trop cher et éventuellement tout le refaire, ça c'est quelque chose de sûr, et puis pour pouvoir après derrière faire une plus-value sans vraiment m'en rendre compte, hein, c'était pas à fond, mais intuitivement c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. J'ai vraiment cherché la bonne affaire dès le début.
Ouais, t'avais déjà ce bon sens, on va dire, de pourquoi pas le valoriser, etc.
Voilà, de
sans avoir cette
tout à fait
cet état d'esprit.
D'ailleurs, les premiers temps ont été durs, hein, parce que c'était un petit appartement qui avait été squatté à la conception, donc j'ai tout refait tout seul avec mes petits moyens et ça a mis un an, donc douché à l'eau froide, pas de chauffe-eau, et puis dès qu'on a un peu de sous, on installe le chauffe-eau, ouais. Tout refait, tout cassé dans l'appartement, et au fur et à mesure, le refaire, quoi.
Ouais, donc t'es vraiment parti de rien, si je puis dire.
Le premier appartement, donc c'était un F3, je l'ai payé, donc c'était en 2006, je l'ai payé quelque chose comme 5 millions, 6 millions, j'ai dû mettre 1 million de travaux dedans, donc à la fin, il m'est revenu à 6 millions 6 CFP. Et je l'ai revendu 4-5 ans après, 13 millions 8. Donc ça a fait une marge de 7,2 millions. Mais quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que le jour où ça a été vendu, je me suis retrouvé sur mon compte avec 9 millions. Alors je me suis dit, attends, j'ai fait une marge de 7 millions, comment j'ai 9 millions ? Et c'est là où j'ai compris que les loyers, mes remboursements de crédit, ben, ça avait créé mon capital. Donc au lieu de payer un loyer, j'avais créé un capital. Donc cet argent qu'on donne à la banque, en fait, on se le donne à soi, quoi. C'est ce qui m'a permis d'avoir 9 millions. Ça m'a étonné, hein. Pendant un moment, j'ai cherché, j'ai mis un moment à comprendre.
Ouais, donc en fait, t'as pris un peu par la force des choses, finalement, un peu par hasard.
Ouais.
À te rendre compte que la puissance finalement ça pouvait apporter de louer un appartement qui s'amortit dans le temps, quoi.
Absolument, d'autant plus qu'à l'époque donc j'ai eu mon premier CDI, je l'ai acheté et puis j'ai bossé 4 ans et j'ai repris les études, je suis reparti 2 ans. Pendant ce temps-là, je l'ai mis à louer et c'est en rentrant de mes études que je l'ai vendu en fait. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais fait une culbute, quoi, et déjà une plus-value et en plus l'épargne forcée, en fait, ce que j'appelle l'épargne forcée.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu, au niveau des banques, comment ça s'était passé pour ton premier achat?
Le premier achat.
Pour rappeler le contexte, à quel âge? T'as 22 ans? 20 ans?
21 ans, je sors de l'école de gestion et de commerce. Alors bon, ça aide, hein, j'ai fait un peu de commerce, donc je savais quand même un petit peu comment ça fonctionnait. Le crédit, c'était pas difficile parce que c'était un petit montant, donc j'avais fait un crédit sur 25 ans, même pas, je crois que j'avais fait 15 ans. Et voilà, par rapport à mon salaire, quoi. Donc c'était tout simple, mais j'avais même pas rentré dedans l'enveloppe travaux, j'avais même pas pensé à ça. Me suis dit que les travaux, j'allais les financer sur mon salaire avec des économies. Donc c'était vraiment à l'arrache, quoi.
Ok. Et puis t'as pas eu de problème finalement à emprunter.
Et puis bon, à cet âge-là, j'estime qu'on peut vivre un peu à la dure, quoi. Donc j'avais 21 ans, voilà, ouais, j'avais mon appartement tout seul. Bon ben, voilà, je me suis douché à l'eau froide, c'est pas grave. On a moins de besoin de confort, on va dire.
Alors, tu pars refaire tes études en Australie.
Tout à fait.
Tu revends cet appartement, en fait cette maison plus exactement.
C'est un appartement.
Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je reviens de l'Australie où là j'ai fait un master, donc un MBA, donc encore du commerce, et je reviens, je cherche un travail. Donc à la base, j'avais vendu l'appartement pour finir de me payer mes études, et je me suis rendu compte que ça met tellement de temps à vendre, entre les délais de compromis, de financement et avant de toucher l'argent, que quand je suis rentré en Calédonie, j'avais mon argent et plus d'appartement. Donc du coup, je l'ai mis de côté et j'ai cherché un travail. Et il s'avère qu'il y avait un poste de gérant dans une agence immobilière de disponible. Donc je me suis dit, tiens, l'immobilier finalement, c'est peut-être quelque chose qui me plaît, je vais y aller. Et donc j'ai attaqué le boulot dans l'agence immobilière. Et ce boulot dans l'agence immobilière m'a apporté des opportunités assez rapidement. Et j'ai utilisé mon petit pécule de 9 millions pour faire des nouveaux investissements. Et donc là, je suis parti sur d'autres projets personnels.
On va en parler justement.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu sors de ton école et en fait, c'est un peu comme une boîte d'intérim qui t'appelle pour ce poste en agence immobilière, hein, finalement.
Je recherchais du boulot et puis voilà, avec les réseaux, j'ai eu cette opportunité-là, quoi.
Et donc, tu prends le job.
Je prends le job et
rapidement, t'as cette opportunité.
Très rapidement, dans le cours de l'année, la première année, je tombe sur un projet, un immeuble à vendre à Poindimier, donc en province nord. Sachant que je suis né à Poindimier, mes parents étaient instits sur Poindimier, donc c'était une commune où j'avais un attachement quand même. Et même si c'est à 4 heures de route, alors normalement, quand on parle d'investissement, on dit investissement locatif, toujours acheter près de soi, éviter l'étranger, les lieux lointains, parce que s'il y a un problème, on peut vite y aller, on peut vite réparer, on peut récupérer un loyer. Donc Poindimier, en l'occurrence, il y a quand même des 4 heures de route, c'est fatigant, donc c'était pas l'idéal, mais le rapport locatif était tel que j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Donc ça, c'était 2008, un immeuble sur un terrain de 20 ha avec 10 appartements, tous loués. Un immeuble en mauvais état, mais de par la demande en locatif sur Poindimier, tout loué en permanence. Et donc là, un prix intéressant, il était à 45 millions et il y avait un rapport locatif de 450 000. Donc je suis allé voir ma banque et je leur ai dit voilà, quelles sont les conditions pour acheter ce bien-là. Donc 45 millions, sachant que moi, j'avais pas du tout de quoi, enfin le salaire pour me payer un crédit comme ça. C'est là où donc je suis allé voir la banque et ils m'ont dit leurs conditions. Il fallait que donc sur les 400 et quelques mille de rapports locatifs, que si je faisais 80% de ça, puisse payer la traite et que je fasse l'apport des frais de notaire de 10%.
Ouais, c'est un peu la règle classique des banquiers, finalement.
C'est la règle classique des banquiers.
Et il y a cet apport quand même qu'on t'a demandé, quoi.
Cet apport qui était nécessaire. Donc là, c'est 5 millions. Donc en effet, à 25 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune. Bon, ouais. J'avais les 9 millions sur mon compte. Donc j'ai pu sortir ces 5 millions pour faire cet achat. Et derrière, ben, ça fait 9 ans que ça se loue et que le capital se fait sur cet immeuble. Donc ça a été assez rapide. C'était le premier achat tout de suite, parce que là j'ai vu retraite, quoi. Parce ouais. que quand on est dans le commerce, gérant de société, les retraites vaut mieux se les faire.
D'accord.
J'ai toujours eu cette idée de me dire que les retraites, ça baisse, faut bosser jusqu'à 70 ans. Donc je préférais investir dans un immeuble et faire du rapport locatif. Ouais. Et puis je m'étais dit aussi, il y a une notion qui est intéressante pour moi, hein, c'est l'apprentissage, vu que je partais de zéro et que j'avais jamais rien appris.
Ouais, ouais.
Donc mon premier appart, je l'ai rénové moi-même. Et cet immeuble, il y avait besoin de, quand même beaucoup de travaux de rénovation. Et je me suis dit, je vais apprendre. Il y avait tout type de soucis, d'infiltration, de plomberie. 10 appartements, 600 mètres carrés sur 20 arts de terrain. Bon, en bord de falaise Vumère, un spot magique.
D'accord.
Mais avec beaucoup d'embruns, beaucoup de contraintes techniques et météorologiques. En Dimier, il pleut 300 jours par an.
Ah, quand même, ouais.
Donc je me suis dit, ça va être intéressant d'apprendre aussi par rapport à ça et par rapport à mon métier d'immobilier.
Ça fait des travaux dedans?
En 9 ans, j'ai fait beaucoup de travaux.
Ouais, ok. Pas forcément dès le départ, c'était loué en fait quand t'as acheté.
Voilà, la contrainte de quelque chose qui est déjà loué, c'est qu'on va faire des travaux de réparation, mais les travaux de rénovation, faut que le locataire parte.
Ah ouais,
et ça fait un manque à gagner, donc c'est difficile. Il faut réussir à jongler avec ça.
J'ai calculé en fait sur ton bien, là, par rapport aux chiffres que tu annonces, un achat entre 45 et 50 millions, plus à peu près 450 000 francs par mois de loyer, c'est entre 12 et 13% de rentabilité, ce qui est vraiment très très bien. Hein.
C'est énorme.
Même si tu sors du Grand Nouméa et qu'il peut y avoir des... Mmh. Ouais, donc effectivement, c'était une super opportunité.
C'était des rapports qu'on retrouvait pas ailleurs, hein, parce qu'en un an, j'avais eu le temps de voir des investissements, des choses, et voilà, moi je faisais mon calcul, il fallait que ça se paye sur 15 ans. Alors à l'époque, les taux étaient hauts en plus, j'étais à 5,5.
D'accord.
Il fallait que ça puisse se payer sur 15 ans et dégager une plus-value. En plus d'une fois la traite payée pour pouvoir faire mes travaux, justement.
Donc cet immeuble, tu l'as toujours finalement aujourd'hui?
Je l'ai toujours et c'est toujours en travaux. J'ai optimisé, j'ai créé des appartements en plus. Je vais maintenant certainement faire un étage dessus.
D'accord.
Donc, j'essaie d'optimiser une fois qu'on a le bien, c'est un bien locatif, de l'optimiser pour en obtenir un plus grand rapport et pouvoir faire encore des travaux. Et, donc il y avait par exemple un appartement de 110 mètres carrés. 180 mètres carrés avec deux chambres dedans qui étaient mal faites, c'était une ancienne salle de restaurant, je l'ai coupé en deux, j'ai fait un F3 bien dimensionné et un bureau de 70 mètres carrés, donc j'ai rapporté un loyer de 70 000 en plus par mois en optimisant le bien. Bon, il y a encore du boulot à faire, mais de toute façon cet immeuble pour moi c'est le travail d'une vie, donc dans 10 ans il sera fini, il sera beau et puis je prendrai ma retraite.
Et on va parler de tes autres opérations immobilières, mais en fait, ça, c'est ta première grosse opération. Mmh. T'as peut-être 23, 24 ans, hein, même pas.
Ouais, là, j'ai un peu plus. Ouais,
et
25 ans.
Et il y a quand même, en euros, parce qu'il y aura peut-être des auditeurs de Métropole, en euros, ça équivaut quand même plus à 400 000 euros d'encours.
Ouais.
Et à 23 ans, 400 000 euros d'encours comme ça, qu'est-ce que t'as pas eu peur d'investir? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a vraiment amené à...
Bah,
enfin, ça peut effrayer un certain nombre de gens.
Tout à fait. Bah, tout simple. Déjà, la base, c'est que dans tout le village de Pointe-d'Imier, tous les gens avaient vu ce bien et personne n'en voulait. Parce qu'ils estimaient que y avait des soucis, ici et ça. Donc tout le monde a un niveau de risque différent. Moi, j'ai toujours un niveau de risque. J'accepte le risque. Je suis prêt à le prendre. Alors ceci dit, je l'ai appris dans mes études de commerce. On apprend toujours les équations. C'est le risque et le retour. Donc ouais. C'est comme pour les placements en assurance. On dit le bon père de famille, on a des petits retours. Et les trucs très risqués, on a plus de retours. Dans la pierre, c'est moins risqué qu'une assurance parce que c'est de la pierre. On sait ce que c'est, on peut le toucher, c'est du concret.
Ouais, ouais.
Donc il y a des risques à appréhender, mais je savais que de toute façon, il y aurait du travail et puis vu le rapport que ça a dégagé, ça irait quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui en effet, dans tout coin d'Imier, ils l'avaient tous vu et pour eux, faut raser. Voilà, souvent il y a la réaction du lambda qui dit oh là, faut tout raser. Or pour moi, quand il y a déjà du béton. Et que c'est pas en train de s'effondrer, on peut le retaper. Ouais. Et c'est dommage de casser du béton parce qu'il y a déjà de la valeur dans ce béton. Et raser pour refaire, c'est pas économiquement viable. Donc j'ai toujours dit non, mais moi je vais en faire quelque chose. Et puis j'en ai fait quelque chose. Et puis c'est pas fini, ça va continuer.
D'accord. Eh ben, écoute, ouais. Et donc, du coup, c'est en cours. Toi, t'avais déjà cette maîtrise du risque, en fait, voilà. Grâce à tes études, en fait. Hein.
C'est vrai que par rapport à mes études, en revenant du MBA là, en Australie, l'équation risque-retour, c'était frais. J'avais l'habitude de jongler avec, surtout à des niveaux où c'est des actions, de la bourse et des choses un peu complètement abstraites même, hein, parce que la bourse, c'est abstrait. Et là, du coup, sur quelque chose comme ça, ça m'a paru simple. J'ai vu le rapport. Il dit, il n'y aura pas mieux comme rapport, point Jimmy Simplet, j'y vais. Et puis au pire, eh ben, on revend, il y a des saisies dessus, enfin les banques prennent des hypothèques, voilà, on rembourse un peu de capital et puis après c'est revendu moins cher. Enfin, le risque n'est pas si énorme, au pire on a juste à revendre.
Ouais. Finalement, en relativisant, exactement, tu peux.
Et puis je m'étais dit que je pouvais toujours démembrer le bien, donc le couper en petits morceaux, les 10 appartements, et que je ne vendrais pas à 45 millions 10 appart. Chaque appart vaut pas 4 millions, quoi.
Ouais, donc,
je m'en sortirai de toute façon.
Ouais, vendu appartement par appartement,
voilà, il y avait quand même un risque calculé, un risque, certes, hein, parce que c'est pareil, il y a des gens, ils m'ont dit, oh là là, point d'immier, pourquoi t'y vas? Encore une fois, la jeunesse permet, j'estime, de prendre des choses un peu plus contraignantes, et cette route de 8 heures par, l'aller-retour 8 heures dans la journée, c'est crevant, tu mets 3 jours à t'en remettre, mais bon. On n'a rien sans rien.
Ouais,
donc il y a des fois, il faut savoir aller là où les autres ne veulent pas aller. Justement, parce que c'est là qu'on peut trouver des opportunités parce que les gens ne veulent pas y aller. Voilà, parce que les gens, ils pensent coup de cœur avant toute chose, alors que moi, je pensais investissement avant toute chose. Ouais. Et rapport rentabilité de l'investissement.
Alors, tu t'es pas arrêté là. Hein, tu as continué. Hein, donc, est-ce que tu peux nous parler de cette maison que tu avais achetée avec deux amis? Je crois que c'est ta troisième opération.
Tout à fait.
T'en as eu plein d'autres, hein. On va peut-être pas forcément toutes les citer,
ouais,
mais
il y en a eu 5 ou 6. Mais en fait, c'est vrai qu'on y prend goût parce que le premier appartement, quand à 21, 22, on se retrouve avec 9 millions sur son compte, alors que voilà, c'est mon argent, hein. On me l'a pas donné, c'est pas mes parents, c'est mon argent que j'ai gagné. 9 millions, c'était énorme pour moi. Je me disais, mais mince, c'est fou. Et
ouais,
donc
c'est ça.
On y prend goût. Donc encore plus après, en étant dans le métier de l'immobilier, forcément, c'est quelque chose, on se dit, c'est à faire, c'est quand même des revenus supplémentaires en plus du travail.
Ouais.
Donc c'est intéressant et ça travaille en parallèle. Donc le bien qu'on a fait à plusieurs, donc là c'était dans une optique où en fait, comme j'étais déjà très endetté par rapport à cet achat, parce que l'endettement quand même compte, je me suis dit c'est intéressant de passer à plusieurs et de passer à trois. Donc pour plein de raisons. Premier, c'est l'endettement. Donc là, c'était un bien qu'on avait acheté qui nous est revenu après les travaux à 20 millions. Donc on a fait pas mal de travaux. Prix de revient, c'était 20 millions. Une maison au Mont-d'Or avec un grand terrain, et donc on l'a acheté à 3. Dans l'équipe des 3, on a fait attention à ce qu'il y ait un mélange de compétences. Donc moi, l'agent immobilier qui repère l'opportunité, qui sait combien revendre éventuellement, un financier, un banquier.
D'accord.
Un copain aussi, hein, que des copains, et un ingénieur qui nous a apporté son expertise et sa rigueur dans le domaine.
Vous allez dans cet investissement, c'est l'équipe de choc, hein. En fait, t'as un ingénieur vraiment côté technique, le banquier, maîtrise financière, et toi qui es vraiment dans le côté immobilier, tu vois la perspective pour la location, la revente, effectivement vous étiez un peu pareil comme jamais.
Tout à fait, et donc on est rentré dans le projet en se disant, on va couper le terrain, il y avait un grand terrain, on va déposer un permis sur la parcelle du terrain et on va rénover la maison existante. Il y avait une super vue mer qui n'était pas du tout exploitée, il y avait un mur avec des toutes petites fenêtres.
Là, tu es au Mont d'Or. Hein.
Là, on est au Mont d'Or sur les hauteurs aux Roches Noires.
D'accord.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, donc on a déposé, on voulait construire la petite maison et revendre les deux. Finalement, on a revendu le projet du permis à côté, permis terrain, on n'a même pas construit, on a revendu clairement le projet. Et la maison, on l'a rénovée entièrement. Il y a eu les petites crises de Saint-Louis, donc on n'a pas pu la vendre tout de suite comme on voulait. Donc on l'a mise en location. On avait prévu la sortie patrimoniale. Donc ça a été mis en location. Ça a permis d'amortir un peu de capital aussi pendant un an ou deux. Et on a pu la revendre dans la foulée.
Ce qui explique que vous ayez tout de suite vendu, en fait, c'était parce qu'il y avait un problème avec la banque, ou c'est plus par rapport au petit.
C'était une opportunité. Ah. Le projet a évolué.
Ça se vendait bien comme ça, en fait.
Voilà, le projet a évolué au fur et à mesure. Donc, il y avait, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire finalement.
Ouais, ça a évolué en cours de route, quoi.
Voilà, ça a évolué. Cette crise à Saint-Louis,
La crise à Saint-Louis, c'est des affrontements qui ont fait
que ça a fait baisser le prix,
sur
la zone du Mont d'Or, les prix ont baissé et les gens, il y avait moins d'attractivité à cette époque-là. Ça, c'était en 2009. Et donc, on a fait moins d'argent que prévu sur ce projet-là, mais l'objectif aussi, comme on était jeunes avec ces amis-là, je leur ai dit, moi, quand je fais un projet, je fais à partir de à combien il faut qu'on arrive à vendre pour rien perdre. Donc, au pire, on a bossé, on a perdu du temps, mais on n'a rien perdu. Et là, je vois un prix qui est ridiculement bas, et je fais, au pire, on gagne rien, mais vraiment au pire du pire. Par contre, on aura gagné l'expérience. Donc, c'est ce que je leur ai dit quand on s'est... Parce qu'il faut vraiment faire attention à son équipe, il faut vraiment préparer dès le début tout le monde, savoir pourquoi on le fait, et prévoir les sorties. Toujours à tout projet d'équipe, dès qu'on se met en équipe, il faut prévoir la sortie. C'est-à-dire comment ça va se passer si ça se passe mal, comment on sort du projet. Et donc, j'ai dit, voilà, au pire, on avait un objectif de se faire 2 millions chacun. Au final, on s'en est fait que 1 chacun parce qu'il y avait ce fameux problème. Mais on a énormément appris.
Voilà. C'est vachement intéressant ce que tu dis, de bien préparer, s'organiser et prévoir les différents scénarios pour qu'au pire des cas, un scénario fameux worst case, comme on peut dire,
voilà.
que tu t'en sors quand même en positif. Et auquel cas, si le scénario le pire n'est pas... C'est un peu ce que tu dis, n'est pas rentable, et ben on n'y va pas, quoi.
Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est, enfin, faut pas toujours rester accroché à son objectif qu'on voit là-haut et se dire, ah, être déçu quand on n'y arrive pas. Non, il faut se dire, ça peut arriver. Il y a des risques, donc le risque, c'est que ça foire. Si ça foire, jusqu'à quel point je peux encore le rattraper par rapport au foirage qu'il va y avoir. C'est-à-dire, jusqu'où c'est encore rattrapable. Et en l'occurrence, on l'a rattrapé, le projet, et on s'en est bien sorti. Et même si c'était pas ce qu'on voulait au début, on a investi. Alors, le temps investi, l'énergie investie, tu te dis, ah mince, j'aurais pu faire autre chose, gagner autre chose. Oui, mais t'as appris. Ouais. Donc, pour moi, ça vaut de l'argent. C'est même un échec, enfin, de toute façon, c'est connu. On apprend de ses échecs. C'est de l'apprentissage. Donc là, moi, j'ai eu la chance de toujours me dire, même un semi-échec, on peut encore gagner un peu d'argent. Donc, mais au pire, faut pas en perdre, hein, c'est le but. Ouais. Mais quand bien même il y aurait un peu de perdu, c'est pas grave, parce que ce qui a été appris, c'est le plus important, et ça permet de plus faire les mêmes erreurs, d'avancer et de repartir.
Ouais, donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent l'échec est vu dans notre société un peu comme négatif, c'est-à-dire celui qui est en échec, il est pas bon, alors que finalement, l'échec finalement c'est apprendre davantage, apprendre plus, et tu seras encore meilleur après, et c'est comme ça finalement que tu arrives à acquérir un peu tous ces biens immobiliers petit à petit.
Tous les entrepreneurs ont connu l'échec, et je connaîtrai l'échec certainement, même si maintenant je fais hyper gaffe à tout. Mais l'échec, c'est pas grave. Faut savoir redémarrer. Alors, c'est bien de pouvoir le minimiser quand même, de le réfléchir à l'avance et de minimiser et de se dire bon, si je rate, et du coup, on n'a pas peur d'aller dans le projet parce qu'on se dit même si ça va pas, imaginons donc là, j'ai plus la maison, je reprends les chiffres. En fait, on avait prix de revient 25,4 millions, acheté 16,7 millions. Avec les frais de notaire, 8,7 millions de travaux, prix de revient 25,4 millions, je m'étais planté tout à l'heure. On l'a vendu 29,5, donc on s'est fait une marge de 4. On avait prévu 8. Et on aurait pu encore perdre 4 et rien gagner. Ouais. Et je veux dire, c'était vendable, quoi. Il n'y avait pas de problème. En enlevant 4, c'était sûr que ça se vendait. Ouais. Donc, faut savoir estimer ces prix-là. Ça, c'est vrai que c'est quand même le travail de l'agent immobilier. C'est-à-dire que moi, je connais mon marché. Je sais que la maison F4, on est à 24 millions, on se faisait 4 millions. Et c'était dur à vendre, à 20 millions, les gars sautaient dessus, même en période de crise. Ouais. Donc voilà, mais le but c'est quand même essayer de s'en sortir avec une...
1 million chacun, finalement c'est quoi, à peu près 8000 euros chacun.
Ouais, voilà, 8000 euros chacun, donc c'est pas la folie par rapport au temps qu'on a passé dessus, mais il faut voir ce temps passé comme un temps passé sur des bancs d'école à apprendre des choses.
Ouais, exactement.
C'est la même chose, t'es pas payé quand t'es à l'école et pourtant t'apprends des choses, c'est pareil. Et en plus, on est payé.
En plus,
on a quand même gagné 8000 euros.
Ah non. Et ouais, donc du coup, je vais te poser la question. Vous êtes à 3 sur cet achat. Sur l'aspect un peu structure, parce que les gens se posent la question. On peut acheter en nom propre, effectivement, comme tu as fait pour ta première maison. Et tu peux acheter à plusieurs. Et y a plusieurs méthodes, finalement, d'acheter à plusieurs.
Tout à fait.
Je pense à la SCI, notamment, Société Civile Immobilière, où les actionnaires de la SCI, finalement les associés, se partagent la structure et le bien.
Ouais.
Et toi, c'est pas comme ça que t'as fait?
Alors, à l'époque, on avait pris un nom propre, hein, c'est ça, ouais, on avait pris un nom propre. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est en fonction des périodes, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Parce que, par exemple, les SCI, fut un temps, il y avait des droits d'enregistrement plus bas. Et puis, les lois évoluent, les fiscalités évoluent, ça change. Yeah, ouais. Donc, il faut repérer en fonction du moment, il faut aller voir son notaire, lui poser les questions. Ils sont là pour ça, on ne paye pas, hein, du moment qu'on passe après avec eux sur le projet. Leur poser, dire voilà qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, se renseigner, discuter, notamment avec les notaires. Donc il y a en nom propre, là en l'occurrence on a acheté en nom propre, comme si on était comme un couple qui va acheter une maison en nom propre.
D'accord,
à deux. Donc là on était en couple à trois, on a acheté à trois, on a créé un compte en banque avec nos trois noms, et c'est ce compte en banque avec ce chéquier qui permettait de faire les travaux. D'accord. Et compagnie.
Et t'as un crédit, finalement vous êtes trois à signer le crédit, trois responsables.
Tout à fait.
À la même hauteur en fait, c'est ça, vous avez pris des...
Alors après oui, là on avait pris la même hauteur, enfin c'était particulier. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le crédit a été fait, c'est-à-dire le remboursement a été fait par mes deux co-associés, et moi j'avais fait l'apport.
D'accord.
Donc ce qui m'avait exempté de faire la partie crédit, donc j'avais pas de remboursement à faire parce que mon taux d'endettement était au taquet.
D'accord.
Par contre il me restait un peu d'argent d'apport.
Okay.
Donc j'ai mis l'apport, je sais plus, 3-4 millions d'apport, et du coup j'ai pas je suis rentré sur le projet comme ça, sur ce projet là donc faut voir en fonction ce que chacun peut apporter, que ce soit
ça,
de l'apport, de la compétence.
Ça tu l'as négocié dès le départ avec la banque, en fait toi tu participais pas au...
Oui.
C'était plus entre vous
le crédit il est pris aux trois noms, mais j'ai expliqué à la banque, mais oui c'est entre nous qu'on a
ouais.
Vu ça
tant
au final, la banque,
tant qu'après elle a son...
Voilà. La banque elle veut son apport,
ça traite,
et que ce soit payé.
Ça se voilà. Passe bien quoi.
Mais il y a même des associations qui sont vues où la personne n'amène rien, mais rien, excepté son expertise. Donc il y a un gars qui amène l'argent et un gars qui fait le projet parce qu'il a l'expertise. Ils peuvent être à 50-50 sur le projet. Ça,
d'accord.
C'est donc on peut partir sur des projets juste en connaissant et à partir avec un gars qui va être lui l'investisseur au niveau de l'argent.
Et donc il y avait une raison en fait d'investir en nom propre et de pas monter une SCI ou...
Alors à l'époque
ça,
c'était au niveau de la fiscalité parce que en Calédonie on n'a pas d'impôt sur les plus-values sur les biens immobiliers.
En nom propre
pour les résidences secondaires en fait.
D'accord.
En nom propre, en SCI ça dépend si on est à l'IS ou à l'IR. Mais à l'IS, il y a l'impôt sur la plus... C'est comme une société, donc on a une comptabilité.
D'accord.
De société. Donc on va avoir un impôt qui est le bénéfice, un impôt sur le bénéfice.
D'accord, donc c'était forcément imposé sur la plus-value en SCI, pas
voilà.
En nom propre. Quoi.
Pas en nom propre. Alors en SCI, à l'IR, qui s'apparente à un truc en nom propre.
Ouais. Donc impôt sur le revenu, finalement.
Sur le revenu, voilà.
Parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément...
Oui, impôt sur le revenu, et IS, c'est impôt sur les sociétés.
Sur les sociétés,
donc
ouais.
C'est comme une société, donc il y a une comptabilité, et on paye sur un bénéfice, comme une société va payer sur ses bénéfices un impôt. Et en IR, c'est comme si c'était en nom propre. Mais à ce moment-là, on ne voyait pas l'intérêt de la SCI. Et, je ne sais plus pour quelle raison exacte, mais voilà,
c'est déjà une bonne raison, je dirais.
Voilà.
Et aujourd'hui aussi, c'est toujours non imposé.
Alors le texte n'est pas encore passé en Calédonie, d'ailleurs, bon, à titre professionnel dans mon syndicat. J'aimerais qu'on le passe.
Évolutions.
Tout à fait, j'aimerais qu'on le passe et qu'on baisse les droits d'enregistrement. Mais ça, c'est un cheval de bataille que je suis le seul à mener. Mais c'est plus par rapport à l'économie générale en Calédonie. J'estime que c'est bien de taxer en sortie de projet et pas en entrée de projet. Donc
d'accord.
Les frais d'enregistrement en Calédonie sont élevés. On est à 12,5%.
C'est quoi? C'est les frais de notaire, en fait?
Les frais de notaire.
Ouais.
Sont en fait pas... Les frais d'enregistrement sont constitués de frais de notaire et de taxes communales, provinciales.
Ouais, d'accord.
On appelle ça les frais de notaire, mais c'est les frais d'enregistrement.
Ok.
Et ils sont très élevés. On a 12,5% en métropole, c'est 6%, il me semble. En Australie, 3%. Et ça, pour moi, ça apporte vraiment une inflation directe parce que le bien prend 13%. Donc, quand on veut le revendre, on veut le récupérer. Et je trouve qu'une taxation à la sortie d'un projet, une fois que tu as gagné de l'argent, qu'on te taxe sur tes bénéfices, c'est plus logique. Que te taxer dès le début du projet, ce qui peut carrément bloquer la faisabilité du projet parce qu'il faut sortir de l'argent.
C'est vrai. Hein. Vu comme ça, c'est vrai que ça paraît logique.
Donc ça
paraît logique.
Ça, c'est mon opinion. Je travaille dessus par rapport au syndicat, à la Confédération de l'immobilier. Mais bon, voilà, c'est une source d'argent pour la Calédonie. Donc dès que c'est source d'argent, les frais d'enregistrement, les frais de notaire, ça va être très compliqué de les enlever.
Et ouais.
Et l'impôt sur la plus-value, pour l'instant, n'est pas une mesure très populaire, donc c'est pas encore passé. Mais moi, je trouve que mettre l'impôt des plus-values avec une contrepartie frais d'enregistrement, ce serait logique, et ça fluidifierait l'économie calédonienne.
D'accord. En tout cas, pour ceux qui veulent revendre, finalement, faire un achat-revente, hein, comme on dit en tant qu'investissement achat-revente, finalement, c'est vachement intéressant.
Bah, t'as moins à sortir en entrée et tu es taxé si tu fais de l'argent. Parce qu'un impôt sur une plus-value, c'est son nom. Si tu fais de moins-value, t'as pas d'impôt à payer. Ouais, donc,
mais au final, aujourd'hui, tu dis que c'est pas en place, ça.
C'est pas en place.
Sur laquelle est de...
C'est pas en place. Voilà, c'est, ce serait que pour les résidences secondaires. Donc pas pour les résidences principales, ouais. Ce qui est plutôt...
Bah ça, c'est un peu comme en métropole.
Voilà.
Bah, bon, t'es pas taxé sur ta résidence principale quand tu la revends.
Voilà. Mais donc, il est pas encore en place. Et, ça fait des années que c'est dans les tiroirs. Bon, maintenant qu'on a besoin d'argent, ça va sûrement ressortir. La Calédonie a besoin.
L'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira, tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler finalement des autres projets? Est-ce que tu pourrais nous parler, je sais pas, est-ce que tu as refait des achats-reventes, tu as refait du locatif que tu as encore?
Alors après j'ai fait...
Pour les auditeurs, là en ce moment tu es sur une grosse opération à Bourail, sur un immeuble.
Ouais.
Donc ça c'est vachement intéressant et il y a une structure très particulière, donc c'est vraiment bien si les auditeurs restent jusqu'au bout du podcast pour avoir cette expérience et ce retour d'expérience. Mais entre-temps tu as fait autre chose, voilà, est-ce que tu peux nous en parler?
Alors c'est vrai que l'idée de c'est bien de pas avoir de loyer, donc très parce que pour moi hein, parce qu'on perd de l'argent, on donne de l'argent à quelqu'un, donc très rapidement j'ai cherché quelque chose à acheter pour me loger. Pareil, ça s'est fait dans les mêmes années en parallèle de cet achat sur le Mont d'Or.
D'accord.
Et donc pareil, dans chaque achat que je fais pour me loger, je pense toujours à la sortie et à la possibilité de revendre. Donc je vois ça comme un mini projet, c'est-à-dire je vais aller m'installer dedans, en étant dedans je vais pouvoir le mettre en valeur, garder un an, deux ans, trois ans et le revendre, faire quelques travaux pour pouvoir apporter ma plus-value, faire un jardin si le jardin est pas beau, faire en sorte, je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en valeur un bien et le vendre un peu plus cher.
D'accord.
Donc j'ai acheté une petite maison à Coutiot. C'était vraiment l'opportunité, ça c'était pas le coup de cœur, c'était situé dans un quartier social. C'était l'enfer à vivre. D'ailleurs, je l'ai revendu très rapidement et j'ai fait une toute petite
plus-value dessus.
Ouais, j'ai fait une marge, j'ai fait 3 millions. Je comptais en faire beaucoup plus. Le prix de revient, c'était 20 millions. Une petite maison sur 8 arts F5 à Coutiot.
Et tu dis l'enfer à vivre, c'est-à-dire des nuisances sonores.
Ouais, nuisances sonores. Tous les gars autour, en fait, c'était un lotissement social. C'était très particulier. Il y avait que des gens sociaux, donc ils payaient pas de loyer. On leur donnait la maison. Ouais. Moi, j'avais un crédit de fou dessus.
Ok.
Les types roulaient tous en 4x4 et tout parce qu'ils avaient pas de loyer. Du coup, ils avaient tous des crédits, ils avaient Canal, machin. Moi, j'étais en 206. J'avais tout mon argent dans la maison. Et j'avais pas Canal et voilà, donc j'étais quand même fou, j'étais l'extraterrestre au milieu du quartier.
Ah, OK.
Donc moi ça me dérange pas d'être dans des milieux un peu sociaux océaniens, vu que je suis d'ici, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que les gens venaient pas trop me voir quoi, les copains ils venaient plus trop me voir, j'étais un peu excentré. Je l'ai vite revendu.
D'accord.
Mais toujours en me disant je perds pas d'argent, je refais une petite plus-value. Et ça permet de venir gonfler le capital. De venir gonfler la trésorerie, donc de faire concrètement, de mettre de l'argent sur le compte pour pouvoir derrière refaire des apports sur les projets.
Tu l'as vendu au bout de 2 ans?
Ouais, j'ai vendu au bout de deux ans.
Finalement, tu l'as revendu au même prix ou un peu plus cher?
Non, j'ai revendu 23 millions, donc j'ai fait 3 millions.
En plus en de ce que tu avais amorti, quoi.
Ouais.
Enfin, le
ouais,
peu,
là,
le peu
là
que
j'ai
que
pas amorti grand chose parce que là c'était vraiment court.
Voilà.
Mais au moins, j'ai pas mis des loyers dans le vent. Parce que 100 000 de loyers par an, ça fait 3, sur 3 ans, ça fait 3 millions.
Ça va vite.
6. Ouais. Là, je l'ai revendu le même prix, donc j'ai pas amorti trop de capital. J'ai pas vendu le même prix. J'ai pas amorti mon capital, j'ai fait 3 millions de plus-value et j'ai pas perdu 3 millions 6 de loyers.
C'est ça. Finalement, t'as gagné 6 millions. Par rapport à la situation si tu seras en location.
Voilà, tout à fait.
Donc
tout
ça, c'est intéressant.
Donc,
et tu vois vraiment là l'intérêt de effectivement d'acheter ta résidence principale.
La location le moins possible. Alors ça dépend des pays, mais bon, en Calédonie, d'une manière générale, dans un pays où l'économie fonctionne et où l'immobilier est assez stable, c'est intéressant.
Ouais.
Je sais qu'en Allemagne, ils sont beaucoup sur la location, c'est culturel.
D'accord.
Quand le rapport est intéressant, vaut mieux acheter de toute façon. Ouais. Moi, je pense.
Mais ce que j'observe dans ton parcours, c'est que t'as commencé par acheter ta résidence principale à chaque fois. Après, t'as fait un projet locatif. Mais avant de faire ce projet locatif, t'as revendu pour te donner une capacité d'emprunt.
Exactement. Ouais.
Et finalement, toi, finalement, t'as pas cet attachement à ton bien. T'as pas eu ce côté coup de cœur.
Non.
C'était vraiment ta résidence principal pour pas payer de loyer. Mmh. Et finalement, pour la revendre, t'apporter un capital. Mmh. Et là, on voit très bien le mécanisme, en fait, de l'investisseur immobilier. Souvent, les gens comprennent pas ça, ou pas tout de suite. Et effectivement, c'est ça, le levier immobilier, c'est que, en revendant, tu peux réemprunter. Mmh. Des plus grosses opérations et petit à petit tu acquiers aussi la confiance des banques, j'imagine.
Tout à fait.
J'ai l'impression que tu progresses un peu comme ça.
C'est tellement ça parce que bon, en plus moi j'adore faire ça et puis c'est quand même une source d'argent sympathique, donc c'est surtout en plus du boulot. Et achat rénovation, et puis j'en ai fait 2-3 comme ça, et puis à un moment j'ai acheté ma maison en me disant ça y est, c'est ma maison avec ma femme, je vais acheter ma maison. Bien placé, joli, comme ouais. je veux. Toujours okay. dans l'optique de me dire que si je dois divorcer d'avec ma femme, je saurais quand même la revendre plus cher que ce que j'ai acheté.
Toujours un plan, pas bloqué. Un plan de sortie, ça
toujours c'est... un plan de sortie. Mais c'était la maison où je voulais rester. Okay. Et au bout de 3 ans, j'avais mis toutes mes billes dedans et je pouvais plus rien faire. Plus aucun projet. Je voyais passer des trucs devant moi et ouais. je pouvais plus rien faire. Tout partait dans le crédit et j'avais plus d'apport.
Donc ça t'a en fait, un peu, si tu peux nous parler des chiffres pour cette maison.
La maison, c'était pareil. Alors là, moi, je suis très dans la rénovation, hein. Donc, je l'ai acheté 32 millions frais de notaire inclus.
D'accord.
Dans le crédit, il y avait 10 millions de travaux. Donc, ça me l'a amené à 42 millions. C'était un crédit de 42.
D'accord.
36 plus 6 d'apport. Et je l'ai revendu. Ah, bon, je l'ai revendu. Pourquoi je l'ai revendu? C'est qu'on s'est séparés. Donc, il a fallu la revendre. Bah, je l'ai revendu 60. Donc, j'ai fait, entre 17 et 20 millions de plus-value, en sachant que c'est la plus-value nette, mais pendant 3 ans, j'ai passé tous mes week-ends sur la maison, je compte pas mes heures, mais si je dois me payer 1000 francs de l'heure, j'ai fait que 10 millions de plus-value sur la maison. Quoi.
Ce qui est quand même énorme en 3 ans.
Ce qui est énorme en 3 ans.
C'est que, enfin, tu parles 10 millions net, on va dire, par rapport au temps que tu as passé, c'est clair que tu as dû travailler tous les week-ends, mais 10 millions, c'est quoi? C'est 80 000 euros. Et c'est si tu compares, c'est le prix d'un F1 ou d'un petit F2 une première couronne de grande ville en métropole. Ouais. Donc, et c'est aussi le prix d'un studio à Nouméa.
Ouais.
Donc, en 3 ans, c'est quand même pas mal.
Et ce qui est dingue, c'est que avant qu'il y ait cette rupture avec ma conjointe, je commençais à lui dire, écoute, je suis pas bien là, je peux plus faire d'opération. Est-ce que ça te dirait pas qu'on vend la maison? Je sais que c'est notre maison, mais et ça allait encore. Hein. Je dis, on la vend, on prend de l'argent et on refait un autre projet et on en rachètera une autre plus grande,
plus belle et tout.
Plus belle et okay. Mais je peux plus là, j'ai plus le financement, des trucs qui me passent sous le nez, ça m'énerve. Et c'est dur hein, parce que on avait tout investi dedans au niveau du cœur aussi.
Et là t'avais emprunté seul ou t'avais emprunté?
On avait emprunté à deux et on était bloqué, on pouvait plus rien faire.
La capacité d'endettement maximum et même les banques vous suivez pas pour d'autres projets?
Non, parce que trop d'endettement et pas l'apport. Il faut un apport. Donc après on peut faire des projets avec des associés voilà qui vont amener l'argent ou quoi, mais moi j'aime bien quand même mettre mes billes dedans. Ça demande plus d'investissement personnel. D'accord. Et donc ouais, c'est quelque chose voilà, c'est exactement ça, c'est que là, je peux plus faire d'opération, tu veux pas qu'on la vende.
Tu es frustré en fait parce que tu as été finalement dans ton élan, c'est un peu ça quoi.
Donc il faut, et là par exemple maintenant depuis que j'ai fait ça, je l'ai revendu il y a 3 ans hein, c'est assez frais cette maison là. Et bien je suis en location. Je veux pas racheter de maison parce que je veux d'abord faire mes projets qui vont me rapporter une retraite et de l'argent et de la plus-value et du locatif.
D'accord.
Dont le fameux immeuble à Bourail. Une fois que je l'aurai fait et que vu ce que tu vas me rapporter en plus en loyer, j'achèterai. Mais parce que j'aurai déjà fait ça et je sais qu'avec ça, ça peut m'apporter de l'argent, une retraite quoi. Ce sera fait, je pourrais presque arrêter de travailler.
D'accord.
Donc et là, à ce moment-là, j'achèterai. Mais je veux surtout pas refaire l'erreur d'acheter là, de tout bloquer mes capitaux. Alors qu'il y a ce projet qui est là et qui est beau quoi. Donc là c'est pour ça que je fais ce gros projet et après je verrai pour acheter quelque chose.
T'as un peu changé de stratégie finalement.
Moralité je loue. Alors c'est ce que, mais bon le moins possible. Donc là ça fait 2 ans et voilà bon ça va s'arrêter. Le projet il va se terminer en fin d'année et je vais très vite racheter derrière. Ce sera le premier truc que je ferai. Je veux pas me bloquer au niveau endettement ni apport.
Mais c'est clair. Hein. Et souvent ce qu'on entend dire c'est ça, c'est que pour un premier achat, effectivement. Toi, tu disais acheter pour se loger, c'est bien. Mais si tu veux acheter après du locatif, tu risques d'être bloqué, surtout si tu n'as pas un gros salaire. Alors, pour un premier job, c'est pas évident forcément. Et du coup, c'est aussi bien d'acheter un investissement locatif en premier et tout de suite après, peut-être que pour ta résidence principale, les banques te prêtent plus facilement aussi, tu vois.
Oui, ça dépend. Après, faut faire ses calculs, mais surtout, moi, je pense, il faut acheter le plus tôt possible. Et faut pas penser à la maison de sa vie. Ça veut dire que le gars qui a 18, 20 ans, 21 ans, il sort des études, il dit, ah, je vais attendre d'avoir gagné assez d'argent pour acheter la maison de ma vie. Et pendant 10 ans, il va payer un loyer. Et là, il se rend pas compte qu'il est en train de perdre des sommes astronomiques. Alors que tu commences, t'achètes un studio, tu le gardes 3 à 4 ans, tu trouves une copine, tu revends, t'achètes un F2, et à chaque fois, tu vas faire un capital si c'est bien acheté. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut pas trop regarder le coup de cœur pour regarder le rapport et le coin, mais c'est très difficile. Beaucoup de personnes, au-delà du risque, veulent le coup de cœur. Ils se voient pas habiter dans un truc qui leur plaît pas. Donc ils vont préférer louer un truc pas terrible. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont le louer, le truc pas terrible, mais parce que comme ils se disent c'est loué, c'est pas comme si j'avais acheté pour la vie. Alors qu'ils vont vivre dans le même truc pas terrible qu'ils auraient pu acheter et revendre 5 ans plus tard parce que c'est pas pour la vie, faut le revendre. C'est ça le truc. C'est faut acheter tout de suite le plus tôt pour arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer, créer son capital, revendre, racheter un truc plus gros et ça permet de créer un vrai capital rapidement quoi. J'avais fait un calcul lors d'une présentation, je crois qu'en 30-40 ans, on peut se faire 60 millions de capital. Ouais. Alors que si tu loues tout le temps, ces 60 millions là, tu les donnes à quelqu'un d'autre.
Ouais, donc tu parles vraiment du côté il y a deux choses, c'est le levier immobilier quoi, et le côté mental en fait qui est pas vraiment très très partagé. Et c'est vrai qu'un conseil qu'on peut donner à un jeune aujourd'hui qui commence à travailler, c'est peut-être effectivement pas forcément investir dans le locatif tout de suite s'il se sent pas, mais tu peux tout acheter.
Au moins s'acheter son bien, voilà.
Ta résidence, t'as ton petit bien pour y habiter et tu perds pas ton loyer.
Voilà.
Et après, ça te fait ton petit capital pour rebondir.
Même si c'est pas voilà, comme tu dis que c'est pas partir sur des projets locatifs dès le début. En effet, acheter son logement. Même si c'est pas terrible, c'est un petit studio. On sait, on commence tous dans un petit studio, hein, et puis après, tu le revends.
Et finalement, c'est dépasser ce cap de la peur du crédit, finalement, de la peur d'investir, parce que finalement, le crédit immobilier, c'est l'un des crédits les plus sûrs, si on peut dire. Tout le monde a besoin de se loger.
Ouais, bien sûr.
Et même si ton bien, comme tu dis, est pas terrible et que tu le revends au même prix ou même un peu moins, tu perdras toujours moins d'argent, finalement.
Voilà. Même en revendant au même prix ou un peu moins, on aura quand même évité de mettre des loyers dans le vent. Donc, on aura gagné de l'argent. Souvent, les gens disent « Ah, je vais pas le vendre moins cher que je l'ai acheté ». Mais si tu peux, parce que compte les loyers que tu as, tout est une question de perspective. Ouais. Mais au final, l'argent que tu as dans ta poche, il est dans ta poche, il n'est pas dans la poche d'un autre.
Bien ça. Comme tu dis, tu apprends, donc même si la première opération n'est pas exceptionnelle.
Et puis quand on est en location, souvent, on dit ah, ça va pas, ça c'est abîmé, ça. Ah, il fait pas de travail. Ah, et puis on se laisse aller, l'appartement il est un peu pourri, et puis on va pas faire d'amélioration vu qu'on est en location.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Tu dis ah, c'est con. Alors que quand tu es propriétaire, c'est ton bien. Donc là, ah, il y a une petite fuite, tac, tu répares. Hop, il y a un truc, ah, ce serait joli avec ça. Bah tiens, je vais le mettre. Et c'est comme ça qu'on améliore son bien et que quand on le revend derrière, il y a forcément une plus-value parce qu'il va être amélioré. Et ces deux états d'esprit, il y a un état d'esprit attentif contre un état actif. Donc en location, ah, ça va pas, c'est nul, mon proprio fait rien, je vais pas le faire parce que c'est pas chez moi. Le jardin, pourquoi je planterai les arbres? C'est pas chez moi. Alors que quand t'es actif, t'es chez toi, tu fais. Et derrière, tu vas le récupérer en le revendant.
C'est très intéressant tout ce que tu dis. Est-ce qu'on peut enchaîner du coup sur la question, sur ton parcours qui t'a amené à te professionnaliser? T'es donc gestionnaire d'agent immobilier. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ce métier-là finalement? T'es dans l'immobilier dans ton métier, dans ta vie, pour faire ton patrimoine. T'es vraiment...
Oui, en l'occurrence, c'est vrai que c'est...
Qu'est-ce que ça t'apporte? Si tu ferais, par exemple, je sais pas, moi, n'importe quel autre métier, plombier ou boulanger...
C'est arrivé par hasard. Donc, comme je disais, on m'a proposé ça. Et puis, c'est là que je me suis dit, mais attends, en fait, on cherche tous le métier de ses rêves. Et j'avais pas de passion, moi. J'ai jamais dit, tiens, je serais médecin. J'adore les gamins à 8 ans qui font « je serais médecin » et qui font « médecin ». J'ai dit, bravo, c'est génial. Moi, j'ai jamais dit quoi que ce soit. Mis à part, avec le recul, de me dire que j'avais quand même besoin d'acheter quelque chose rapidement. Okay. Ça, ouais. Alors, j'ai fait, tiens, il y a peut-être un truc. Et moralité, ça fait 10 ans que ça, et je me rends compte que j'adore ça. Acheter, rénover, les projets, les constructions. Quand je rentre dans une maison, je regarde comment c'est fait. Mon rêve, c'est de construire des choses, quoi. J'adore ça. Okay. Donc finalement, ma passion, c'était ça. Donc bon, déjà c'est une chose d'être heureux dans son travail, et donc je suis arrivé par hasard un peu, et puis à force de ça m'a permis surtout de connaître mon marché, donc de pouvoir savoir où étaient les bonnes opportunités. La gestion d'agence, je fais que de la transaction, donc je fais que de la vente, donc je vois un prix, je repère, je dis tiens ça marche bien, tiens ça les prix montent, ça les prix baissent, tiens là c'est intéressant. Toutes les stratégies pour vendre, je peux les appliquer à moi, donc le démembrement de biens, acheter une grosse parcelle, la couper en morceaux, ou un immeuble et faire une copropriété, les couper en morceaux, revendre. Donc ça permet vraiment d'avoir cette expertise, et du coup d'arriver voir les banques et dire c'est bon, ça va s'acheter tant. C'est moi qui fais les estimations quand les gens vont acheter quelque chose, c'est moi qui fais les estimations écrites qu'ils donnent à leur banque. Donc là, je le sais pour moi.
Donc
ça t'apporte aussi.
T'as une connaissance finalement très fine en fait du prix des biens.
Voilà.
Parce que t'en vois tellement, c'est ça un peu. Hein,
voilà.
Que tu sais exactement comment ça va se vendre, si ça va bien se vendre ou pas.
Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment moi je suis l'initiateur des projets. Après, je cherche des gars avec moi en général, parce que c'est quand même sur des gros projets, c'est sympa. Ouais. Donc du technique, hein, un maître de travaux, un gars qui connaît vraiment bien. Je m'y connais, j'en ai fait pas mal, mais c'est pas ce que je fais tous les jours.
D'accord.
Donc ça, et puis un financier, je m'y connais aussi, mais quand tu te mets avec un banquier, voilà, t'apprends la langue du banquier et tout de suite c'est plus facile de se faire financer.
Ça, même dans ton métier d'agent immobilier, tu vas en contact ces gens-là. Quand t'estimes un bien, tu appelles un constructeur ou un artisan.
Oui, voilà. Moi déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que en effet, de faire des travaux de rénovation régulièrement, on connaît le coût des choses, on sait que le carrelage, ça va être tant du mètre carré,
ouais.
Le mur, là, il peut être cassé. Quand je rentre dans une maison qui a des problèmes, je sais bien, les infiltrations, ça vient de là, parce que je sais comment ça marche, parce que j'ai rencontré les problèmes dans mon immeuble à Pointe-Dîner,
ou
dans ma maison à Coutio, ou dans
ça, c'est côté expérience de terrain, quoi.
Voilà, l'apprendre, ce que je disais, apprendre. Et plus on apprend, et plus on est bon dans son métier, et plus après, c'est facile. Et ça se ressent même devant la clientèle, c'est-à-dire que mon expérience de mes opérations privées m'apporte de l'expérience dans mon travail, qui m'apporte des expériences pour mon... Donc c'est un cercle vertueux.
C'est ça.
Et au final, je fais que d'apprendre, et apprendre, c'est très important.
Et c'est quoi, bon, quand tu fais bien la différence, cet avantage que ça te procure, mais un investisseur, c'est quoi la différence entre un investisseur qui a agent immobilier, un investisseur comme moi, lambda, qui apprend tout par suite. Est-ce que c'est quoi? C'est la vitesse? Tu vas beaucoup plus vite finalement?
Bah non, parce que moi là, j'ai bientôt 40 ans, j'ai commencé à 21 ans et j'ai appris, c'est la courbe d'apprentissage. Bon, elle est pareille pour tout le monde. De toute façon, on peut pas dire, moi je peux pas dire je vais pouvoir dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, crois-moi, je me suis planté. Mais en vrai, je me suis rendu compte d'une chose,
ouais.
C'est que les gens, ils ont besoin de vivre leurs expériences.
Ouais.
Tant qu'ils se seront pas plantés eux, ils comprendront pas que je leur ai dit attention, tu vas te planter. C'est pareil avec mes commerciaux, que quand je les forme, il faut qu'ils la fassent, la connerie. Et tu lui dis fais gaffe, tu vas faire, fais pas ça. La semaine d'après, il l'a fait, le mec il fait putain, j'ai fait. Et il la fera plus jamais, la connerie. Donc, et j'ai remarqué ça dans des investissements, c'est que moi, mon niveau d'investissement, il n'est pas le même qu'un nouveau dans le métier. C'est-à-dire que moi, je vais aller vers des projets où il y a un énorme retour.
Ouais.
Ça m'intéresse plus les petits retours parce que je l'ai déjà fait.
Ouais.
Mais il faut commencer par là. C'est pour ça que je dis acheter un studio rapidement. Là, moi, j'ai formé maintenant qui est mon associé, un jeune. Je lui dis, il me dit ouais, on va faire des promos, on va faire des si, on a plein d'ambitions. Je dis non, tu vas acheter un studio et puis tu vas aller le rénover toi.
Ouais.
Et je suis allé l'aider. Je lui ai fait acheter un studio à 8 millions. Il l'a rénové, il l'a mis en location. Il a appris. Il faut commencer.
Il a fait lui-même ses travaux, tu veux dire.
J'ai aidé, je lui ai montré, voilà, il faut les faire soi-même, parce que c'est important. On sait, une fois qu'on l'a fait soi, on peut dire, quand tu vas dire à un gars, vas-y, fais-moi ça, tu sais ce que c'est comme masse de travail, t'es passé par l'avant, et tu vas pas lui gueuler dessus pour rien.
C'est un peu au même niveau qu'un artisan, tu sais, la difficulté la tâche et du temps que ça peut aussi représenter, enfin, même si lui, c'est son métier, il va faire plus vite que toi, c'est clair.
Et de la fatigue, et du mal de dos quand tu rentres, et de ci et de ça. Ouais. C'est pas de dire, vas-y, fais-moi ci. Et du coup, ça va t'améliorer tes rapports avec tes artisans aussi plus tard. Une fois que tu peux le comprendre, c'est pareil dans tous les métiers. Le type qui est catapulté à la tête d'une société, s'il sait pas faire le travail qu'il demande à ses petits employés à la base, ça sert à rien, il n'y arrivera jamais.
Ouais.
Parce qu'il sait pas. Tu peux pas conseiller, ordonner des gens sur quelque chose que tu sais pas faire. Donc, faut vraiment commencer petit. Pour moi, c'est le plus vite possible et petit. Un petit projet, un petit studio, un truc, se faire la main. Apprendre. Hop, t'apprends sur du petit. Si tu te plantes sur du petit, c'est moins grave que sur du gros. Si t'attaques direct un projet à 120 millions en disant c'est bon, je suis un tueur, là les risques sont importants.
Ouais. Et puis alors, le risque c'est que ça te flingue quoi.
T'as pas confiance, voilà le risque. Ça apprivoise le risque.
Il y a peu de chances qu'on te prête aussi tout de suite pour un gros projet.
Il y a peu de chances aussi, donc c'est un tout. Donc c'est pour ça qu'il faut la courbe d'apprentissage et la courbe d'investissement en immobilier et de création de patrimoine, c'est commencer petit studio. F2, F3, tac, 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 et après tu pars sur des choses.
Donc, je pense que tu as vraiment bien résumé les choses. Si on peut retenir une chose, finalement, c'est apprendre avec l'expérience sur le terrain et se former, finalement, tu insistes vraiment là-dessus. Et c'est la base un peu pour comprendre un peu tous ces mécanismes et petit à petit se développer son patrimoine immobilier.
Ouais, surtout pour des personnes qui n'y connaissent rien à la base et qui n'ont pas
beaucoup de personnes.
Très peu de personnes sont héritiers de familles qui sont constructeurs, promoteurs et naninana, ou arrivent avec plein d'argent d'un coup, t'es obligé de commencer en bas et commencer par le début, faut y aller tranquillement.
Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux projet d'immeuble à Bourail sur lequel t'es, comment ça se passe, comment t'as eu cette opportunité en fait, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça?
Alors moi, personnellement, je suis agent immobilier, j'aime bien faire des projets, mais ma vision des choses, c'est de pas raser pour construire. J'aime pas raser un truc qui existe pour faire du neuf moche. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de rénovation. Au final, pas de promotion, j'ai fait que de la rénovation.
D'accord.
Et à chaque fois, on m'a dit oh là, faut que tu rases, ça sert à rien. Hein. Et à la fin, je leur montre et les gars, ils font waouh, mais c'est comment t'as fait? Parce qu'en fait, du moment que les bétons sont bons, s'il y a de l'humidité, tu fais des drains. Enfin voilà, du moment que le béton à la base il est bon, tu peux tout récupérer. Et faut être créatif. Et donc là, c'est un vieil immeuble. Je passais devant depuis des années dans Bourail, abandonné, un vieil hôtel pourri avec des pigeons dedans et tout. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est. Et avec l'opportunité de l'agence immobilière, j'ai appris que c'était en vente à un prix intéressant parce que tellement pourri que personne en veut. En fait,
d'accord.
Les gens vont pas vers ça. Hein, encore une fois, j'ai ma niche. Hein, je fais marre.
Ouais.
Et donc on est parti. J'ai fait le calcul, béton, prix. Si je devais recouler le béton aujourd'hui, ça me coûterait le double que le prix que je vais l'acheter. Donc j'ai dit go. Et puis on va tout refaire en partant des murs béton. On va tout démolir, on va garder les murs et on refait tout.
Ok.
Et donc là le but, c'est pareil comme je disais, c'est que je voulais créer mon rapport locatif. Donc j'ai toujours mon petit immeuble à Pointe-d'Imier, mais avec celui-ci, ça me permettrait d'arriver à quelque chose où même une fois que t'as payé les traites, ça te dégage une plus-value en jouant avec l'effet levier de la banque.
D'accord.
Donc l'idée c'est du 14, du 15, donc une fois que avec les taux qui sont bas en ce moment, ça te dégage une somme
14-15% de rentabilité qui te permettrait de dégager chaque mois en fait comme un petit salaire.
Comme un petit salaire et d'être entre guillemets rentier, ce qui est le rêve de tout le monde, même si on n'est jamais réellement rentier vu qu'il y a du boulot. Donc l'idée c'est là il y a 800 mètres carrés, un immeuble sur 4 étages. Donc autant à Pointe-d'Imier, j'avais les locataires dedans, donc j'ai pas rentré dedans les travaux. Autant là, il y a pas de locataires parce que c'est vraiment dans un état lamentable. Il y a des pigeons, des nids de guêpes,
C'est pas squatté non plus.
Non, alors en fait, comme c'est un immeuble sur plusieurs étages, il y a deux étages où c'est les pigeons, les guêpes, puis un étage où il y a une genre de gardienne qui a ses bureaux. Voilà, ça sert de bureau en fait à moitié.
D'accord.
Donc c'est quand même
quelqu'un. Je t'ai pas demandé, mais peut-être que tu l'as dit. Il y a combien d'appartements, en potentiel, par rapport.
Alors c'était un hôtel, donc il y avait 24 chambres d'hôtel, 12 par étage, et en fait on des toutes petites chambres, donc on reprend toute la distribution, on fait 6 studios au lieu de 12 chambres.
D'accord.
Des studios traversants. Donc 6 studios en R plus 3, 6 studios en R plus 2, R plus 1 c'était la salle de restaurant, donc là on fait un F2, les murs étaient pas tout à fait pareils, donc on fait un F2, un F3 et un studio.
D'accord.
Et en R c'était les réserves de l'hôtel, on va dire, et là c'est un local commercial, donc là on laisse en local commercial, on n'y touche pas. Donc en tout, ça fait 13 studios, un F2, un F3 et un local commercial de 200 mètres carrés.
Ouais, donc c'est une grosse opération. Ouais.
Il y a de quoi faire. C'est une opération à 1 million d'euros à la fin en prix de revient, donc 120 millions CFP.
Ouais.
Donc là, pareil, je me suis mis avec des associés. Parce que c'est toujours l'apport, quoi. Là, maintenant, sur de la réno, ils demandent entre 15 et 20%. Donc moi, j'avais pas autant. Donc j'ai mis des gens comme ça, on peut tous faire l'apport.
D'accord. Et vous êtes combien là, sur ce projet?
On est 3. Et donc là, on a dispatché. Donc moi, l'agent immobilier qui trouve l'opportunité, qui sait que le locatif ça fonctionne et tout, sur Bourail, parce qu'on va tout mettre en locatif. Là, on garde tous les biens, on revend rien, on garde tout. Il y a un professionnel du bâtiment qui a construit 800 logements en 2 ans pour une société qui s'est maintenant mis à son compte. Donc pareil, qui fait sa retraite. Et un autre associé avec qui je travaille dans l'agence, qui lui apporte. Donc bon, comme c'est aussi un agent immobilier, lui il est très bon en achat, design, donc il va gérer tout ce qui est toute la partie achat, et aussi sa famille est originaire de Bourail, donc on a toute la partie réseau sur Bourail.
Ah ok, super.
Donc il a
pour la location
aussi,
par exemple après.
Voilà, pour trouver les ouvriers.
Et les ouvriers
déjà,
sur place.
Parce, voilà, les ouvriers sur place.
Et donc, ouais. Parce que Bourail c'est à quoi, 2h, 2h30 de route quand même.
Ouais, 2 heures de route.
De Nouméa.
2 heures de route de Nouméa, donc c'est déjà moins que Point-Dimier. Je me rapproche au fur et à mesure.
Ouais, c'est ça.
C'est l'âge, hein. C'est que maintenant j'ai bientôt 40 ans et Point-Dimier, c'est vrai que ça commence à être fatigant d'y aller. Mais bon, voilà, il faut.
Hein, tu vas tous les combien à peu près aujourd'hui là, genre 10 ans
après.
Au début, j'allais
une fois par mois, voire tous les 15 jours, et puis après j'ai craqué. Et puis, le problème c'est que comme j'ai d'autres projets sur Nouméa, des fois je mets de côté un peu la gestion là-bas, donc ça m'est arrivé de pas y aller pendant 6 mois.
Ouais, tu laisses tourner quoi.
Entre eux.
Tu laisses tourner.
Ouais, alors quand tu reviens.
T'as une agence ou tu gères tout toi-même?
Non, je gère tout moi-même, je vais apprendre dans le Nord.
À ce point-là.
Ouais, puis il y a aussi des conformités électriques qui sont peut-être pas encore toutes bonnes, donc ils veulent pas prendre en gestion, même si à Point-Dimier c'est plus que commun, enfin c'est un autre monde quoi. Les mecs là-bas ils louent des cases où il y a pas l'eau, l'électricité, des instits et tout, à des prix faramineux. Donc voilà, le but c'est de vraiment te remettre en conformité, ce qui se fait au fur et à mesure, hein. D'abord il a fallu traiter les fuites, les plomberies, les infiltrations,
ouais.
Et puis au passage remettre des défenses électriques partout, mais ça a été un tel cafarnaum là-bas qu'il y a du boulot et que...
Ok, et t'en as encore pas mal quoi.
J'en ai encore pas mal.
Et du coup sur cet immeuble à Bourail, t'as pas acheté en nom propre, c'est une structure particulière, est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, c'est vrai que ça t'avait intéressé, ça t'avait interloqué quand je t'en ai parlé, c'est... Encore un autre montage, donc c'est à force de voir un peu tous les montages qui se font. Donc là, c'est une SCA. Donc c'est une société civile d'attribution, on appelle ça.
D'accord.
Donc là, le montage est particulier. Alors, pendant un moment, ça s'était fait sur des constructions d'immeubles pour détourner un peu les frais de notaire. Mais bon, il y a une jurisprudence qui est passée. Ça peut se faire vraiment qu'entre amis sur ce genre de projet-là. C'est typiquement le bon genre de projet. Donc là, en fait, le problème d'un gros projet comme ça où en fait on veut se répartir les appartements derrière, oui. Le but c'était que dans une SCI on soit pas bloqué entre nous, c'est-à-dire quand il y en a un qui veut sortir du projet, il est obligé de soit te revendre tes parts, c'est une gestion compliquée. Donc moi je voulais que chacun ait ses appartements et puisse en faire ce qu'il voulait.
D'accord.
Donc là on part en copropriété, mais alors en nom propre c'est compliqué parce que la banque veut un interlocuteur, elle veut pas 3 interlocuteurs sur un gros projet compliqué comme ça.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Donc on part sur une SCA, donc on est tous les 3 actionnaires à 33%, on va dire.
Ok.
On rentre dans l'opération, nous on fait nos crédits chacun à notre nom, hein, en nom propre.
D'accord.
L'argent est mis dans la SCA. La SCA fait l'opération de rénovation et après la SCA est dissoute et chacun récupère ses biens.
D'accord.
Donc on n'a pas à repayer des frais de notaire sur le bien. Donc on récupère nos biens à prix de revient en fait et en nom propre.
Ok. Parce que les frais de notaire, tu les payes à l'achat
On paye des frais de notaire sur l'achat qui, voilà, on a acheté ça à 40 millions, donc 4 millions de frais de notaire, on va dire. Et si tu veux récupérer tes biens, t'es obligé de te les racheter quelque part. Tu les rachètes à la SCI, quoi. Donc c'est compliqué cette histoire de SCI. Donc la SCA, on dissout la SCA, chacun récupère ses biens en nom propre.
C'est automatique et c'est assez simple apparemment.
Et c'est simple et c'est assez fait pour ça.
Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en fait moi personnellement je connaissais pas.
Ouais.
Et comme tu dis, l'avantage de finalement retrouver en nom propre et de disposer toi-même de tes biens en fait. Si par exemple tu veux en vendre un. Une fois que c'est à toi, un des lots qui t'appartiennent, t'as pas besoin de contacter tes associés.
Au final, je récupère 5 apparts. Chacun a ses apparts, c'est nominatif. S'il veut le revendre, il le revend. Alors qu'en effet, voilà, c'est en SCI. Faut sortir le bien de la SCI. Il y a des impôts, c'est compliqué. Faut que tout le monde vote, que tout le monde soit d'accord. Tu sais pas lequel est à qui. Là, on va dire, voilà, celui-là il est à toi, celui-là il est à toi. Tu débrouilles, on se les répartit. Et puis voilà. Quoi.
Donc, tu parles d'action en fait, actionnaire. En gros, c'est un capital finalement, c'est ça en fait.
Bah,
ton crédit t'apporte ton capital qui permet d'acheter.
Oui, toutes les sociétés sont... En fait, c'est même pas ça. C'est qu'on va créer une SCA à même à 100 000 francs CFP. Et on aura chacun des parts à hauteur de 33 000.
D'accord.
Et c'est et on apporte l'argent en compte courant, finalement.
Ah, d'accord.
Et okay. On rentre l'argent dans la société, elle fait l'OP, et puis après, on la dissout, on récupère les biens, et puis
voilà. Ouais. Ok. Puis après, j'imagine, c'est le notaire, après, qui fait les transferts.
Voilà, alors c'est vrai que c'est technique, tout ça. Moi, ouais. C'est en discutant avec les notaires. Donc, et puis alors, bon, bah, plus on avance dans les projets... Après, il y a quelque chose, ça, c'est quand on rentre dans des pro, voilà, dans le temps, justement, qu'on a acquis de l'expérience, parce que j'aurais pas commencé avec ça, je savais même pas que ça existait. Mais, ouais. Donc, t'as ça, c'est l'ingénierie financière et l'ingénierie juridique, donc, à savoir, c'est là où t'as besoin de banquiers, de notaires, qui eux vont te dire, tiens, là, concrètement, dans la SCA, il va y avoir, donc, trois personnes plus une SCI, parce que le local commercial, on peut pas se le diviser, donc, celui-là, on le prend en SCI, à trois.
D'accord.
Donc, et quand ça va être dissous, on aura une SCI qui aura ce local commercial.
Okay.
On va se partager en trois les loyers, ou si on le vend, se partager en trois. Et nous, en nos propres, chacun 4-5 biens.
Donc au sein de ta SCA, il y a une SCI ouais. Exprès pour un des biens.
Donc, voilà. Donc c'est vraiment des montages.
Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois un peu l'architecture que tu peux créer finalement au premier abord, on ne s'imaginerait pas
c'est
possible quoi.
C'est ça, c'est de l'ingénierie et là on rentre dans des choses, des montages qui permettent d'optimiser tout ça quoi.
Et c'est excellent, ton parcours est vraiment très inspirant. Je pense que les auditeurs vont pouvoir aussi s'inspirer de ce parcours, surtout les débutants qui n'ont jamais encore investi ou ceux qui se posent des questions. Et effectivement, il n'y a pas que le Grand Nouméa, il y a aussi le reste de la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Et apparemment, il y a des bonnes opportunités, comme tu as pu nous le montrer. Quoi.
Si on veut bien aller là où les autres vont pas, quoi.
Ouais.
Il y a des choses. Mais c'est sûr que moi, de toute façon, finalement, c'est ma passion et j'aime bien le faire partager aux autres et ça m'intéresse que d'autres prennent le même chemin parce que c'est des conseils que je donne à mes amis, c'est des conseils que je donne à tout le monde. Ça, c'est pas que parce que c'est mon métier de vendre des maisons, je vais pas les vendre à tout le monde, mais c'est juste que voilà, c'est quand même super, ça permet de se rendre indépendant en quelque sorte. Ça veut dire qu'une fois que ta maison elle est payée et que t'as un bien ou deux qui sont payés, tu peux arrêter de bosser et aller faire ce que t'as envie de faire quelque part. Donc ouais. c'est l'objectif, c'est pour ça d'ailleurs que je suis investi dans tous les syndicats, les associations d'agences immobilières et tout. C'est parce que je suis pas payé pour être président du syndicat, ouais. Mais c'est juste intéressant, ouais, et c'est juste quelque chose qui me plaît. Et si je peux faire passer le message qui d'après moi est un message plutôt positif,
ouais, et ben t'as une quête comme une quête personnelle un peu derrière tout ça.
Ouais, c'est une passion quoi, donc c'est pas par intérêt quoi.
Je te propose maintenant de passer aux trois questions de fin d'épisode.
Mm-hmm.
Les questions en fait que je vais te poser, c'est l'idée, c'est toujours d'inspirer les gens qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu aurais toi une référence à partager au sens large ? Ça peut être un livre, un site internet, un auteur qui t'a apporté en fait dans ton parcours, une personne en particulier.
J'ai pas les références exactes en tête, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qui veut se lancer dans l'immobilier. Parce que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir ce background, cette formation de MBA, de Master of Business and Administration, donc commerce.
D'accord.
C'est justement un bouquin, parce que bon, c'est ce qu'on apprend énormément, qui traite de l'investissement, le risque et le retour sur investissement. Pouvoir comprendre ces notions-là. Donc, il doit en exister plein. Hein. Il suffit de taper sur Google coût, risque, investissement. Et c'est très intéressant. Ça permet justement derrière d'appréhender avec des éléments plus quantitatifs, quoi, des données, dire tiens, voilà, c'est ça. Ah ouais, tiens, c'est en rapport. Ok, en fait, et ça permet d'appréhender plus facilement cette notion de risque, je pense. En se disant bon ben voilà donc ça peut être une chose parce que c'est vrai que moi ça m'a aidé clairement
ça c'est un bouquin que t'as lu pendant tes études
c'est ça fait partie des études hein on apprend voilà c'est le rapport entre le risque et l'investissement
tu te souviens d'un titre ou d'un auteur
pas du tout en plus c'était en anglais en Australie alors c'était les bouquins courts mais
les bouquins courts sur en gros le rapport entre le risque et écoute si ça te revient plus tard on pourra le mettre en note dans le podcast
je fais une recherche.
Les personnes pourront aller voir la référence si tu t'en souviens, ce serait vraiment chouette. Après ça, est-ce que tu aurais une phrase ou un proverbe inspirant qui toi t'anime ou t'aimes bien, tu en fais une phrase
Ouais, j'en ai sûrement plein, mais il y a rien qui me vient. On en avait discuté la dernière fois. J'aimais bien tes proverbes qui disaient, en quelque sorte, ce côté, il vaut mieux, enfin, créer son capital, quoi. Donc, plutôt que de mettre de l'argent par les fenêtres, c'est mieux. Enfin, un loyer, quand on y pense, c'est un gars, enfin, un gars qui, tu mets un gars qui paye son loyer de ton appartement.
Ouais.
C'est lui qui paye ton crédit, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui met de l'argent pour toi. Parce que c'est toi qui vas le récupérer le jour où tu le vendras.
Complètement,
donc, t'as même pas besoin de mettre cet argent. Donc, c'est mieux que n'importe quel placement. On parle de placement à 3-4%, ouais. Là, c'est 100%.
Ouais, c'est un peu la citation, quand on en avait parlé, c'était un arbre, quand tu le plantes, c'est le meilleur moment, c'est il y a 20 ans, ouais. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.
Ouais.
Et finalement, un peu l'immobilier, c'est ça, puisque... Plus tu attends dans ta location, comme un arbre qui va grandir et pousser, finalement.
Le temps joue pour toi.
C'est un peu ça que tu.
C'est pour ça qu'il faut le faire jeune, parce que une fois qu'il y a un type qui loue, moi là, quand je pense à Point d'Imier, que ça fait 9 ans, c'est dingue. J'ai amorti la moitié de mon capital, ça fait 20 millions déjà, quoi. Virtuellement, j'ai 20 millions là-bas.
Bah, écoute,
et c'est pas moi qui l'ai mis cet argent, c'est les types qui remboursent mon loyer, quoi, quelque part.
Ouais, c'est ça.
C'est les locataires qui remboursent mon loyer. Bon, alors j'ai des crédits, j'ai des problèmes, faut gérer les locataires, c'est tout un tas de problèmes, il y a les travaux, il y a ça, j'ai remis de l'argent, mais l'idée c'est ça, quoi.
Carrément.
Créer son capital.
Et dernière question, est-ce que tu aurais un message à faire passer à un jeune Calédonien qui a 20 ans ou 25 ans, il vient de finir ses études, il a peut-être trouvé du boulot, peut-être pas, en tout cas il va bientôt en trouver, et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en fait par rapport à tout ça?
C'est un peu là.
On en a beaucoup parlé.
Voilà, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que il faut. Le plus rapidement possible, d'après moi, acheter un premier bien, qu'on soit ou pas intéressé par les travaux, même par l'investissement, je veux dire, même si on n'est pas dans l'optique de mettre des gens en locatif ou quoi, acheter son premier appart jeune, pas attendre le produit coup de cœur, acheter tout de suite plutôt que de mettre des loyers. Dès qu'on a un salaire, faut acheter, faut pas attendre.
Trouver un appartement, aller voir les banques et finalement demander un crédit pour l'acheter en son nom.
Voilà, plutôt possible, dès qu'on a un CDI. Même si c'est pas beaucoup. Et puis cet argent, il sera pas dépensé, parce que quand on est jeune, on aime bien dépenser son argent.
Là, c'est vrai.
On a un loyer à mettre. Là, le loyer, tu le construis, tu le mets de côté. C'est de l'épargne forcée.
Exactement.
Tu t'en rends pas compte tout de suite, mais tu t'en rends compte quand tu le
revends. L'épargne intelligente, on pourrait dire.
Ouais. Et forcée. Parce que t'es obligé de payer ton loyer.
Ouais.
Donc, voilà.
Et excellent. Écoute, super. Dernière chose, est-ce que tu peux nous indiquer un peu où est-ce qu'on peut te trouver, puisque t'es un professionnel immobilier, donc t'as quand même pignon sur rue avec ton agence. Est-ce que tu peux peut-être nous donner tes contacts?
Oui.
Si les gens sont intéressés pour te rencontrer, te poser des questions, et pourquoi pas trouver des biens à acheter.
Oui, l'adresse mail c'est immobilier.outremer@lagoon.nc, tout attaché, outremer sans accent.
T'as un site internet aussi?
Il y a un site internet, il y a juste nos produits présents dessus, c'est iom.nc, comme immobilieroutremer.nc. Après on est présent, enfin moi je suis un peu présent partout, via le syndicat, il y a le magazine de l'IMO, le mag de l'IMO, qui est un magazine qu'on a monté avec le syndicat.
D'accord.
Donc le CINC, donc voilà, je suis un peu présent partout, par mail c'est le mieux, sinon il y a mon portable 79 90 26. C'est pas un secret, il est écrit partout, vu que forcément on fait de la pub pour nos produits en ménage mobilis.
Tu vas peut-être encore plus sollicité que tu l'es maintenant.
Peut-être, je suis déjà pas mal, parce que j'aime bien, de toute façon, j'ai toujours fait ça, moi, ça fait 10 ans que je bosse dans l'immobilier, et j'ai toujours, mes premières années, j'ai passé plus de temps à donner des conseils et à discuter qu'à vendre des maisons. Et c'est comme ça que j'ai créé mon réseau et que maintenant on m'appelle parce que les gens ont confiance en moi.
T'es vraiment la référence.
La référence. Pour mes amis, je suis la référence.
Une bonne référence.
Pour mes amis, je suis la référence.
Ouais.
Mais j'aime bien ça. Donc
c'est
ça
vraiment
pas
ce que j'ai constaté la première fois qu'on s'est rencontrés. J'ai énormément appris, tu vois. Et finalement, je t'avais rien demandé. Tu m'avais tout expliqué.
Oui, voilà.
Et j'ai beaucoup apprécié Sia. C'est pour ça aussi aujourd'hui, je t'ai demandé de faire ce premier épisode du podcast dédié à l'immobilier en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique.
C'est un beau projet et c'est pour ça que je te suis dans ce projet-là. Et il faut espérer qu'il vive et progresse.
Écoute, donc, merci beaucoup.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service ? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Avant de vous laisser, je souhaitais dédier ce premier épisode à Bruno du podcast Investimo Club, qui a grandement inspiré la réalisation de cette émission. N'hésitez pas à visiter Investimo Club si vous souhaitez écouter des histoires d'investisseurs et entrepreneurs, souvent dits immopreneurs, riches de conseils et d'astuces en tout genre. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.